Chapitre 13. L'affût au loup, où l'orage a passé. Le groupe de saules, placé sur une petite hauteur à 20 ou 25 pas de la fenêtre de Catherine, dominait une espèce de fossé où passait, encaissé à la profondeur de 7 ou 8 pieds, un filet d'eau courante. Ce ruisseau, qui tournait comme le chemin, était ombragé de place en place de saules pareils à celui que formait le groupe dont nous avons parlé, c'est-à-dire d'arbres semblables, la nuit surtout, à ces nains qui portent sur un petit corps une grosse tête ébouriffée. C'était dans le dernier de ces arbres creusés par le temps que Pitou apportait tous les matins les lettres de Catherine et que Catherine allait les prendre quand elle avait vu son père s'éloigner et disparaître dans une direction opposée. Au reste, Pitou, de son côté, et Catherine, du sien, avaient toujours usé de tant de précautions que ce n'était point par là que la mèche avait été éventée. C'était un pur hasard qui avait, le matin même, placé le berger de la ferme sur le chemin d'Isidore. Le berger avait annoncé comme une nouvelle sans importance le retour du vicomte. Ce retour caché, qui avait eu lieu à 5 heures du matin, avait paru plus que suspect à Billot. Depuis son retour de Paris, depuis la maladie de Catherine, depuis la recommandation que lui avait faite le docteur Rénal de ne pas entrer dans la chambre de la malade tant qu'elle aurait le délire, il avait été convaincu que le vicomte de Charny était l'amant de sa fille. Et comme il ne voyait au bout de cette liaison que le déshonneur, puisque M. le vicomte de Charny n'épouserait point Catherine, il avait résolu d'ôter à ce déshonneur ce qu'il avait de honteux en le faisant sanglant. De là tous ces détails que nous avons racontés et qui, insignifiants au regard non prévenu, avaient pris une si terrible importance aux yeux de Catherine et, après l'explication donnée par Catherine, aux yeux de Pitou. On a vu que Catherine, tout en devinant le projet de son père, n'avait tenté de s'y opposer qu'en prévenant Isidore, démarche dans laquelle, heureusement, Pitou l'avait arrêtée, puisque, au lieu d'Isidore, c'eût été son père qu'elle l'eût rencontré en chemin. Elle connaissait trop le caractère terrible du fermier pour rien essayer à l'aide de prières et de supplications. C'eût été hâter l'orage, voilà tout, provoquer la foudre au lieu de la détourner. Empêcher un choc entre son amant et son père, c'était tout ce qu'elle ambitionnait. Oh, comme elle l'eût ardemment désiré en ce moment que cette absence, dont elle l'avait cru mourir, se fût prolongée. Comme elle eût béni la voix qui fut venue lui dire « Il est parti !» Cette voix eût-elle ajouté « Pour jamais !» Et Pitou avait compris tout cela aussi bien que Catherine. Voilà pourquoi il s'était offert à la jeune fille comme intermédiaire. Soit que le vicomte vint à pied, soit qu'il vint à cheval, il espérait l'entendre ou le voir à temps, s'élancer au-devant de lui, en deux mots, le mettre au courant de la situation et le déterminer à fuir en lui promettant des nouvelles de Catherine pour le lendemain. Pitou se tenait donc collé à son saule, comme s'il eût fait partie de la famille végétale au milieu de laquelle il se trouvait, appliquant tout ce que ses sens avaient l'habitude de la nuit, des plaines et des bois, pour distinguer une ombre ou percevoir un son. Tout à coup, il lui sembla entendre derrière lui, venant de la forêt, le bruit du pas heurté d'un homme qui marche dans les sillons. Comme ce pas lui parut trop lourd pour être celui du jeune et élégant vicomte, il tourna lentement et d'une façon presque insensible autour de son saule, et à 30 pas de lui, il aperçut le fermier, son fusil sur l'épaule. Il avait attendu, comme le prévoyait Pitou, au carrefour de Bourgfontaine, mais, ne voyant déboucher personne par la sente, il avait cru s'être trompé, et il revenait se mettre à l'affût, ainsi qu'il l'avait fait lui-même, en face de la fenêtre de Catherine, convaincu que c'était par cette fenêtre que le comte de Charny tenterait de s'introduire chez elle. Malheureusement, le hasard voulait qu'il eût choisi pour son embuscade le même groupe de saules où venait de se blottir Pitou. Pitou devina l'intention du fermier. Il n'y avait pas à lui disputer la place. Il se laissa couler le long du talus et disparut dans le fossé, la tête cachée sous les racines saillantes du saule contre lequel Billot vint s'appuyer. Par bonheur, le vent soufflait avec une certaine violence, sans quoi Billot eût certainement pu entendre les battements du cœur de Pitou. Mais, il faut le dire, à l'honneur de l'admirable nature de notre héros, c'était moins son danger personnel qui le préoccupait que le désespoir de manquer, malgré lui, de parole à Catherine. si Monsieur de Charny venait et qu'il arrivât malheur à Monsieur de Charny, que penserait-elle de Pitou, qu'il l'avait trahi peut-être? Pitou eût préféré la mort à cette idée que Catherine pouvait penser qu'il l'avait trahi. Mais il n'y avait rien à faire qu'à rester où il était, et surtout à y rester immobile. Le moindre mouvement l'eût dénoncé. Un quart d'heure s'écoula, sans que rien vînt troubler le silence de la nuit. Pitou conservait un dernier espoir, c'est que, si par bonheur le vicomte venait tard, Billot s'impatienterait d'attendre, douterait de sa venue et rentrerait chez lui. Mais tout à coup, Pitou, qui par sa position avait l'oreille appuyée contre la terre, crut entendre le galop d'un cheval. Ce galop, si c'en était un, devait venir par la petite sente qui aboutissait au bois. Bientôt, il n'y eut plus de doute que ce ne fût un cheval. Il traversa le chemin à 60 pas à peu près du groupe des saules. On entendit les pieds de l'animal retentir sur le caillouis et l'un de ses fers, ayant heurté un pavé, en tira quelques étincelles. Pitou vit le fermier s'incliner au-dessus de sa tête pour tâcher de distinguer dans l'obscurité. Mais la nuit était si noire que l'œil de Pitou lui-même, tout habile qu'il était à percer les ténèbres, ne vit qu'une espèce d'ombre bondissant par-dessus le chemin et disparaissant à l'angle de la muraille de la ferme. Et Pitou ne douta pas un instant que ce ne fût Isidore, mais il espéra que le vicomte avait, pour pénétrer dans la ferme, une autre entrée que celle de la fenêtre. Billot le craignit, car il murmura quelque chose comme un blasphème. Puis il se fit 10 minutes d'un silence effrayant. Au bout de ces 10 minutes, Pitou, grâce à l'acuité de sa vue, distingua une forme humaine à l'extrémité de la muraille. Le cavalier avait attaché son cheval à quelque arbre et revenait à pied. La nuit était si obscure que Pitou espéra que Billot ne verrait pas l'espèce d'ombre ou la verrait trop tard. Il se trompait. Billot la vit, car Pitou entendit par 2 fois au-dessus de sa tête le bruit sec que fait en s'armant le chien d'un fusil. L'homme qui se glissait contre la muraille entendit sans doute de son côté ce bruit auquel ne se trompe pas l'oreille d'un chasseur, car il s'arrêta, essayant de percer l'obscurité du regard. Mais c'était une chose impossible. Pendant cette halte d'une seconde, Pitou vit au-dessus du fossé se lever le canon du fusil. Mais sans doute, à cette distance, le fermier n'était-il pas sûr de son coup, ou peut-être craignait-il de commettre quelque erreur, car le canon qui s'était levé avec rapidité s'abaissa lentement. L'ombre reprit son mouvement et continua de se glisser contre la muraille. Elle l'approchait visiblement de la fenêtre de Catherine. Cette fois, c'était Pitou qui entendait battre le cœur de Billot. Pitou se demandait ce qu'il pouvait faire, par quel cri il pouvait avertir le malheureux jeune homme, par quel moyen il pouvait le sauver. Mais rien ne se présentait à son esprit et, de désespoir, il s'enfonçait les mains dans les cheveux. Il vit se lever le canon du fusil une seconde fois, mais une seconde fois le canon s'abaissa. La victime était encore trop éloignée. Il s'écoula une demi-minute à peu près, pendant laquelle le jeune homme fit les 20 pas qui le séparaient encore de la fenêtre. Arrivé à la fenêtre, il frappa doucement 3 coups à intervalles égaux. Cette fois, il n'y avait plus de doute, c'était bien un amant, et cet amant venait bien pour Catherine. Aussi, une 3e fois, le canon du fusil se leva, tandis que de son côté, Catherine, reconnaissant le signal habituel, entr'ouvrait sa fenêtre. Pitou, haletant, sentit en quelque sorte se détendre le ressort du fusil. Le bruit de la pierre contre la batterie se fit entendre. Une lueur pareille à celle d'un éclair illumina le chemin, mais aucune explosion ne suivit cette lueur. L'amorce seule avait brûlé. Le jeune gentilhomme vit le danger qu'il venait de courir. Il fit un mouvement pour marcher droit sur le feu, mais Catherine étendit le bras et l'attirant à elle. « Malheureux, dit-elle à voix basse, c'est mon père, il sait tout, viens !» Et, avec une force surhumaine, elle l'aida à franchir la fenêtre, dont elle tira le volet derrière lui. Il restait au fermier un 2nd coup à tirer, mais les 2 jeunes gens étaient tellement enlacés l'un à l'autre que, sans doute, en tirant sur Isidore, il craignit de tuer sa fille. « Oh » murmura-t-il, « il faudra bien qu'il sorte, et en sortant, je ne le manquerai pas. » En même temps, avec l'épinglette de sa poudrière, il débouchait la lumière du fusil et amorçait de nouveau pour que ne se renouvelât point l'espèce de miracle auquel Isidore devait la vie. Pendant 5 minutes, tout bruit resta suspendu, même celui de la respiration de Pitou et du fermier, même celui du battement de leur cœur. Tout à coup, au milieu du silence, les aboiements des chiens à la tâche retentirent dans la cour de la ferme. Billot frappa du pied, écouta un instant encore et frappant du pied de nouveau, « Ah ! Dit-il, elle le fait fuir par le verger et c'est contre lui que les chiens aboient. » Et bondissant par-dessus la tête de Pitou, il retomba de l'autre côté du fossé et, malgré la nuit, grâce à la connaissance qu'il avait des localités, il disparut avec la rapidité de l'éclair à l'angle de la muraille. Il espérait arriver de l'autre côté de la ferme en même temps qu'Isidore. Pitou comprit la manœuvre. Avec l'intelligence de l'homme de la nature, il s'élança à son tour hors du fossé, traversa le chemin en ligne directe, alla droit à la fenêtre de Catherine, tira à lui le contrevent qui s'ouvrit, entra dans la chambre vide, gagna la cuisine éclairée par une lampe, se jeta dans la cour, s'engagea dans le passage qui conduisait au verger, et, arrivé là, grâce à cette faculté qu'il avait de distinguer dans les ténèbres, il vit 2 ombres, l'une qui enjambait la muraille et l'autre qui, au pied de cette muraille, se tenait debout et les bras tendus. Mais avant de s'élancer de l'autre côté du mur, le jeune homme se retourna une dernière fois. « Au revoir, Catherine, dit-il, n'oublie pas que tu es à moi. »« Oh oui, oui, répondit la jeune fille, mais pars, pars !»« Oui, partez, partez, monsieur Isidore, cria Pitou, partez !» On entendit le bruit que fit le jeune homme en tombant à terre, puis le hennissement de son cheval qui le reconnut, puis les élans rapides de l'animal poussés sans doute par l'éperon, puis un premier coup de feu, puis un second. Au premier, Catherine jeta un cri et fit un mouvement comme pour s'élancer au secours d'Isidore. Au second, elle poussa un soupir et, la force lui manquant, elle tomba dans les bras de Pitou. Celui-ci, le cou tendu, prêta l'oreille pour savoir si le cheval continuait sa course avec la même rapidité qu'avant les coups de feu, et, ayant entendu le galop de l'animal qui s'éloignait sans ralentir, « Bon, dit-il sentencieusement, il y a de l'espoir. On ne vise pas aussi bien la nuit que le jour, et la main n'est pas aussi sûre quand on tire sur un homme que quand on tire sur un loup ou sur un sanglier. » Et, soulevant Catherine, il voulut l'emporter dans ses bras. Mais celle-ci, par un puissant effort de volonté, appelant toutes ses forces, se laissa glisser à terre et arrêtant Pitou par le bras. « Où me mènes-tu » demanda-t-elle. « Mais, mademoiselle, dit Pitou, tout étonné, je vous reconduis à votre chambre. »« Pitou, fit Catherine, as-tu un endroit pour me cacher ?»« Oh, quant à cela, oui, mademoiselle, dit Pitou, et si je n'en ai pas, j'en trouverai. »« Alors, dit Catherine, emmène-moi. »« Mais, la ferme. » »« Dans 5 minutes, je l'espère, j'en serai sorti pour n'y plus rentrer. »« Mais, votre père, tout est rompu entre moi et l'homme qui a voulu tuer mon amant. » « Mais cependant, mademoiselle, hasarda Pitou, ah, tu refuses de m'accompagner, Pitou ?» demanda Catherine, en abandonnant le bras du jeune homme. « Ah non, mademoiselle Catherine, Dieu m'en garde !»« Eh bien alors, suis-moi !» Et Catherine, marchant la première, passa du verger dans le potager. À l'extrémité du potager était une petite porte donnant sur la plaine de Noue. Catherine l'ouvrit sans hésitation, prit la clé, referma la porte à double tour derrière elle et Pitou et jeta la clé dans un puits adossé à la muraille. Puis, d'un pas ferme, à travers terre, elle s'éloigna, appuyée au bras de Pitou, et tous deux disparurent bientôt dans la vallée qui s'étend du village de Pisseleu à la ferme de Noue. Nul ne les vit partir, et Dieu seul sut où Catherine trouva le refuge que lui avait promis Pitou. Il en est des orages humains comme des ouragans célestes. Le ciel se couvre, l'éclair luit, le tonnerre gronde, la terre semble vacillante sur son axe. Il y a un moment de paroxysme terrible où l'on croit à l'anéantissement des hommes et des choses, où chacun tremble, frémit, lève les mains au Seigneur comme vers la seule bonté, comme vers l'unique miséricorde. Puis, peu à peu, le calme se fait, la nuit se dissipe, le jour revient. Le soleil renaît, les fleurs se rouvrent, les arbres se redressent, les hommes vont à leurs affaires, à leurs plaisirs, à leurs amours, la vie rit et chante sur les bords des chemins et au seuil des portes, et on ne s'inquiète pas du désert partiel qui se fait là où le tonnerre est tombé. Il en fut de même pour la ferme. Toute la nuit, il y eut sans doute un orage terrible dans le cœur de cet homme qui avait résolu et mis à exécution son projet de vengeance, quand il s'aperçut de la fuite de sa fille, quand il chercha en vain dans l'ombre la trace de ses pas, lorsqu'il l'appela d'abord avec la voix de la colère, puis avec celle de la supplication, puis avec celle du désespoir, et qu'à aucune de ces voix elle ne répondit, il se brisa certainement quelque chose de vital dans cette puissante organisation. Mais enfin, quand, à cet orage de cris et de menaces, qui avait eu son éclair et sa foudre comme un orage céleste, eut succédé le silence de l'épuisement, quand les chiens, n'ayant plus de cause de trouble, eurent cessé de hurler, quand une pluie mêlée de grêle eut effacé une trace de sang qui, pareil à une ceinture à moitié dénouée, entourait tout un côté de la ferme, quand le temps, cet insensible et muet témoin de tout ce qui s'accomplit ici-bas, eut secoué dans l'air, sur les ailes frissonnantes du bronze, les dernières heures de la nuit, les choses reprirent leur cours habituel. La porte cochère cria sur ses gonds rouillés, les journaliers en sortirent, les uns pour aller à la semence, les autres pour aller à la herse, les autres pour aller à la charrue, puis Billot parut à son tour, croisant la plaine dans tous les sens, puis enfin le jour vint, le reste du village s'éveilla, et quelques-uns qui avaient moins bien dormi que les autres dirent d'un air moitié curieux et moitié insouciant « Les chiens du père Billot ont rudement hurlé la nuit dernière et on a entendu deux coups de fusil derrière la ferme. » Ce fut tout. Ah si, nous nous trompons. Lorsque le père Billot rentra, comme d'habitude, à 9 heures pour déjeuner, sa femme lui demanda « Dis donc, notre homme, où est Catherine, sais-tu ?»« Catherine, répondit le fermier avec un effort, l'air de la ferme lui était mauvais, elle est partie pour aller en Sologne, chez sa tante. » « Ah, fit la mère Billot, et elle y restera longtemps, chez sa tante ?»« Tant qu'elle n'ira pas mieux, répondit le fermier. » La mère Billot poussa un soupir et éloigna d'elle sa tasse de café au lait. Le fermier, de son côté, voulait faire un effort pour manger, mais à la troisième bouchée, comme si la nourriture l'étouffait, il prit la bouteille de Bourgogne par le goulot, la vida d'un trait, et puis, d'une voix rauque, « On n'a pas décelé mon cheval, j'espère » demanda-t-il. « Non, monsieur Billot, » répondit la voix timide d'un enfant qui venait, la main tendue, chercher son déjeuner tous les matins à la ferme. « Bien !» Le fermier, écartant brutalement le pauvre petit, monta sur son cheval et le poussa dans les champs, tandis que sa femme, en essuyant deux larmes, allait, sous le manteau de la cheminée, reprendre sa place habituelle. Et moins cet oiseau chanteur, moins cette fleur riante qui, sous les traits d'une jeune fille, égaye et embaume les vieilles murailles, la ferme se retrouva, allée dès le lendemain, comme elle l'avait été la veille. De son côté, Pitou vit se lever le jour de sa maison d'Aramon, et ceux qui entrèrent chez lui à 6 heures du matin le trouvèrent éclairé par une chandelle qui paraissait brûler depuis longtemps, si l'on devait en croire sa mèche élancée, et mettant au net pour l'envoyer à Gilbert avec toutes les pièces à l'appui un compte de l'emploi qui avait été fait des 25 louis que le docteur avait donné pour l'habillement et l'équipement de la garde nationale d'Aramon. Il est vrai qu'un bûcheron dit l'avoir vu vers minuit, portant entre ses bras quelque chose de lourd et qui avait l'air d'une femme, et descendant les rampes qui conduisaient à l'ermitage du père Clouis, mais ce n'était guère probable, attendu que le père Lajeunesse prétendit l'avoir vu courant de toutes ses jambes vers 1 heure du matin sur la route de Boursonne, tandis que Maniquet, qui demeurait tout au bout du village, du côté de Lompré, prétendit qu'à 2 heures ou 2 heures et demie, il l'avait vu passer devant sa porte et lui avait crié « Bonsoir, Pitou !» Politesse à laquelle Pitou aurait répondu en criant de son côté « Bonsoir, Maniquet !» Il n'y avait donc point à douter que Maniquet n'eût vu Pitou à 2 heures ou 2 heures et demie. Mais pour que le bûcheron eût vu Pitou aux environs de la pierre Clouise, portant entre ses bras et à minuit quelque chose de lourd et ressemblant à une femme, pour que le père Lajeunesse eût vu Pitou courant à toutes jambes vers 1 heure du matin sur la route de Boursonne, pour que Maniquet eût dit bonsoir à Pitou, passant devant sa porte à 2 heures ou 2 heures et demie du matin, il eût fallu que Pitou, que nous avons perdu de vue avec Catherine, vers 10 heures et demie ou 11 heures du soir, dans les ravins qui séparent le village de Pisseleux de la ferme de Nou, eût été de là à la Pierre Clouise, c'est-à-dire eût fait une lieue et demie à peu près, puis fût revenu de la Pierre Louise à Boursonne, c'est-à-dire eût fait 2 autres lieues, puis fût revenu de Boursonne à la Pierre Clouise, puis enfin fut allé de la Pierre Clouise chez lui, ce qui supposerait que, pour mettre Catherine en sûreté d'abord, pour aller prendre des nouvelles du vicomte ensuite, et après donner des nouvelles du vicomte à Catherine, il aurait fait entre 11 heures du soir et 2 heures et demie du matin quelque chose comme 8 ou 9 lieues. Or, la supposition ne serait pas admissible, même pour un de ces coureurs princiers auxquels les gens du peuple prétendent qu'autrefois on avait enlevé la rate. Mais ce tour de force n'eut à tout prendre que médiocrement étonné ceux qui avaient été une fois à même d'apprécier les facultés locomotives de Pitou. Néanmoins, comme Pitou ne dit à personne les secrets de cette nuit où il avait paru doué du don d'ubiquité, il en résulta qu'à part Désiré Maniquet, au bonsoir duquel il avait répondu, ni le bûcheron ni le père La Jeunesse n'eussent osé affirmer, sous la foi du serment, que c'était bien Pitou en personne, et non une ombre, un spectre, un fantôme ayant pris la ressemblance de Pitou, qu'ils avaient vu dans les fonds de la Pierre Clouise et sur la route de Boursonne. Tant il y a qu'à 6 heures du matin, le lendemain, comme Billot montait à cheval pour visiter ses champs, Pitou était vu relevant, sans apparence de fatigue ni d'inquiétude, les comptes du tailleur du Lauroy, auxquels il adjoignait, comme pièce probante, les reçus de ses 33 hommes. Il y avait encore une autre personne de notre connaissance qui avait assez mal dormi cette nuit-là. C'était le docteur Rénal. À 1 heure du matin, il avait été réveillé par le laquais du comte de Charny, qui tirait sa sonnette à toute volée. Il avait été ouvrir lui-même, comme c'était l'habitude, quand retentissait la sonnette de nuit. Le laquais du vicomte le venait chercher pour un accident grave arrivé à son maître. Il tenait en main un second cheval tout scellé, afin que le docteur Rénal ne fût point retardé un seul instant. Le docteur s'habilla en un tour de main, enfourcha le cheval et partit au galop, précédé du laquais marchant devant lui comme un courrier. Quel était l'accident? Il le saurait en arrivant au château. Seulement, il était invité à prendre ses instruments de chirurgie. L'accident était une blessure au flanc gauche et une égratignure à l'épaule droite, faite par 2 balles qui paraissaient de même calibre, c'est-à-dire du calibre 24. Mais de détails sur l'événement, le vicomte n'en voulut donner aucun. L'une de ses blessures, celle du flanc, était sérieuse, mais cependant ne présentait nul danger. La balle avait traversé les chairs sans attaquer d'organes importants. Quant à l'autre blessure, ce n'était point la peine de s'en occuper. Le pansement fait, le jeune homme donna 25 louis au docteur pour qu'il gardât le silence. « Si vous voulez que je garde le silence, il faut me payer ma visite au prix ordinaire, » répondit le brave docteur, « c'est-à-dire une pistole. » Et prenant 1 louis, il rendit sur ce louis 14 livres au vicomte, lequel insista inutilement pour lui faire accepter davantage. Il n'y eut pas moyen. Seulement, le docteur Rénal annonça qu'il croyait 3 visites nécessaires et qu'en conséquence, il reviendrait le surlendemain et le surlendemain de ce surlendemain. À sa seconde visite, le docteur trouva son malade debout. À l'aide d'une ceinture qui maintenait l'appareil contre la blessure, il avait pu, dès le lendemain, monter à cheval, comme si rien ne lui fût arrivé, de sorte que tout le monde, excepté son laquais de confiance, ignorait l'accident. À la 3e visite, le docteur Rénal trouva son malade parti, ce qui fait que, pour cette visite sans résultat, il ne voulut accepter qu'une demi-pistole. Le docteur Rénal était un de ces rares médecins qui sont dignes d'avoir dans leur salon la fameuse gravure représentant Hippocrate refusant les présents d'Artaxerces.